Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X.
Pile. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Choix Radio X. Vous écoutez Radio X Files avec M. Christian Page et Camille. On vous accompagne jusqu'à 20h avec cette cinquième émission déjà de la thématique des histoires inexpliquées, des théories du complot. Et sans plus tarder, on vous présente le sujet. Et pour ce faire, nous vous ferons écouter cette bande-annonce-ci.
À votre connaissance, votre père avait-il des ennemis? Voulez-vous que je répète la question?
Non, j'ai entendu.
Répondez, je vous prie.
Je suis la nouvelle servante. Bridget, je m'appelle Lizzie.
Votre chambre est confortable? Il peut faire très chaud là-haut. Il est parfois préférable de laisser la porte ouverte.
Tout va bien, ma douce.
Père, avez-vous fait quelque chose?
Ai-je fait quelque chose de mal?
Si tu as besoin de mon aide, je suis là.
Lizzie Andrew Borden, placez votre main droite sur la Bible qui se trouve devant vous. Jurez-vous devant Dieu de dire la vérité sur toutes les questions ayant trait au meurtre d'Andrew et Abby Borden?
Non, 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 avez-vous peur? De quoi?
À votre connaissance, votre père avait-il des ennemis?
Nous sommes en Amérique, monsieur. Chaque homme qui respire a des ennemis.
OK, ça promet ce soir. Bonsoir, Christian.
Bonsoir, Camille.
Qui était Lizzie Borden et qui était son père? Surtout ça, la question.
C'est ça.
Hein?
Donc, je t'amène dans un fait divers qui a marqué l'imaginaire américain presque autant que Jack l'Éventreur a marqué l'imaginaire des Britanniques.
OK.
Donc, on est à la fin du 19e siècle. Si on regarde du côté des Britanniques, il y a à cet automne de 1888, 5 prostituées assassinées dans les rues de Londres par un tueur qu'on n'identifiera jamais et qu'on ne connaît que sous un pseudonyme. Un pseudonyme qui s'était apparemment lui-même donné, là, parce que bon, il envoyait des lettres, on suppose qu'il envoyait des lettres, ou des gens envoyaient des lettres en se faisant passer pour lui, mais en tout cas, peu importe, il va y avoir un pseudonyme qui va circuler dans la presse, le nom de Jack l'Éventreur, et ce mystérieux assassin de Londres, principalement des quartiers de Whitechapel, de Spitalfields, va passer à l'histoire sous le nom de Jack l'Éventreur. Mais alors que ce fait divers assez sordide alimente la presse britannique, et en fait, elle va alimenter la presse partout à travers le monde, mais principalement du côté des Britanniques, on s'interroge, les Londoniens veulent savoir, y a-t-il un tueur en série dans la ville? Et à ce moment-là, faut le savoir, les tueurs en série n'existent pas. Hein? C'est comme quelque chose de tout à fait nouveau. Le terme sera proposé par le FBI dans les années 1970, mais le phénomène du tueur en série en lui-même n'existe pas vraiment. Jack l'Éventreur va devenir le premier tueur en série de l'histoire. Quand je dis histoire, on s'entend bien, c'est l'histoire moderne, parce que des gens qui ont tué, non, bien des gens, on en a eu avant. Enfin, pensez par exemple au maréchal Gilles de Rais en France, qui a été accusé en 1440 d'avoir assassiné au moins 140 enfants. Là.
Donc, okay. Ouais, c'est...
Mais l'histoire lui en prête peut-être beaucoup plus que ça, là. Mais enfin, peu importe, on voit que le phénomène existait, mais ce phénomène phénomène de tueur dans une ville qui va mobiliser en fait toutes les forces de police et toute l'attention de la communauté, ben on voit apparaître ça avec Jack l'Éventreur.
Mais quelques Christian, années je veux pas dévier du sujet, là, mais là tu viens de donner un coup de perle avec le 140 enfants. Que faisait-il dans la vie?
Ce Gilles de Rais était un personnage tout à fait monstrueux. En fait, c'est mon personnage historique favori.
Oh mon Dieu!
Entendons-nous favori
parce
que...
On est tordus les deux!
Oui, il est complètement tordu. Hein. Gilles de Rais, ça a été un maréchal de France. Ça a été un des compagnons de Jeanne d'Arc durant la guerre de Cent Ans. Okay. Et lorsque Jeanne d'Arc va se faire arrêter par... Ben, en fait, elle va tomber entre les mains des Britanniques en 1429, exécutée en 1430. Gilles de Rais, qui était son général principal sur les champs de bataille, va se retirer dans ses châteaux qui se trouvent dans la région là, de Nantes, principalement le long de la Loire. Et là, il se retire dans ses châteaux. Il est maréchal de France. Il est, dit-on, l'homme le plus riche et le plus riche du royaume et l'un des hommes les plus puissants aussi du royaume. Et Gilles de Rais, c'est un individu qui est doublé d'un pédophile. Alors, ouais. Il va commencer à assassiner des enfants et pour trouver le moyen de justifier ses crimes, il va s'entourer de sorciers, il va s'adonner à de la sorcellerie, à du satanisme, va commettre ses crimes en disant, ben, je commets des crimes, oui, j'assassine des enfants pour mon plaisir, mais en même temps, je les sacrifie au nom du diable parce qu'il s'adonne à la sorcellerie et les sorciers qui l'entourent demandent, exigent des sacrifices. C'est une histoire assez complexe,
ouais.
Mais le chef d'accusation, Gilles de Rais, c'est un personnage à qui on va prêter des centaines de morts d'enfants. Certains auteurs ont été avancés jusqu'à des chiffres aussi incroyables que 2000 enfants.
Oh mon
mais,
Dieu.
Mais les actes d'accusation qui seront déposés contre Gilles de Rais, hein, il va commettre ses crimes entre grosso modo 1435 et 1440. Et en 1440, il est arrêté. Les chefs d'accusation, on a une liste d'à peu près 140 enfants qui est déposé contre lui. Mais il y en a peut-être beaucoup plus. Et à un moment donné, Gilles de Rais, parce que les juges lui disent, ben écoutez, avouez vos crimes, parce que si vous n'avouez pas vos crimes, vous allez être soumis à la torture. De toute façon, il va être soumis à la torture.
Ouais, c'est ça, mais
t'as pas un choix. De toute façon, même si tu reconnaissais ton crime, t'étais quand même soumis à la torture. Mais ce qui fait peur à Gilles, c'est que le tribunal, hein, il est jugé par un tribunal ecclésiastique et un tribunal civil, mais le tribunal ecclésiastique le menace d'excommunication. L'excommunication, ça veut dire que si tu meurs, tu t'en vas en enfer. T'as aucune chance d'être réhabilité aux yeux de Dieu ou de quoi que ce soit. Donc, j'ai la plus peur de cette excommunication, donc être damné pour l'éternité lui fait davantage peur que l'idée d'être exécuté sur un bûcher ou par la pendaison. Alors, Gilles va admettre ses crimes. Et là, on lui dit, ben voilà, il y a 140 enfants, vous êtes accusé d'avoir tué un tel, un tel, un tel. Et Gilles, à un moment donné, dit, ben vous avez beau sortir toute la liste que vous voulez, le juge lui demande, mais combien en avez-vous tué? Gilles dit, je l'ignore, je les ai pas comptés, mais il va jusqu'à avancer le chiffre, j'en ai peut-être tué jusqu'à 10 000.
Oh.
Bon, là, ça nous semble un peu excessif, mais ça fait quand même partie du procès de Gilles de Rais, il dit ça, mais minimalement, les actes d'accusation contiennent, grosso modo, 140 enfants. Donc, il va être exécuté pour ces crimes-là. Mais on pourra en reparler parce que c'est un personnage tout à fait épouvantable et qui a marqué l'histoire, d'une certaine façon, de ces crimes sataniques qui se sont produits, je dirais, dans un satanisme naissant. Hein, les phénomènes du satanisme vont... Quand on en parle, nous, et notamment dans l'émission de Radio X-Files, on parle d'un satanisme moderne, un satanisme qui est apparu dans la deuxième moitié du 19e siècle, du 18e siècle, pardon, et qui se poursuit encore aujourd'hui. Donc, on a une vision d'un satanisme, c'est un satanisme moderne. Mais il faut savoir qu'au Moyen-Âge, il y a eu des scissions entre l'Église, le pouvoir laïque, des gens ont manifesté une forme de contestation par rapport à l'institution qui était l'Église, et on a vu apparaître des premiers mouvements qui se sont adonnés au culte du diable, à la sorcellerie. Et Gilles de Rais, hein, tous ces gens-là s'entouraient de sorciers, et Gilles de Rais fait partie de ce satanisme naissant qui va apparaître là, dans la, je dirais, au moment, au passage à peu près de l'an 1000, quoique Gilles de Rais est un peu plus tardif, il est dans les dernières années du Moyen-Âge, puisque le Moyen-Âge se termine en 1453. Gilles de Rais, on est en 1440, donc on est 13 ans avant la fin de ce que les historiens vont appeler le Moyen-Âge. Donc, c'est un personnage tout à fait extraordinaire et épouvantable, mais qui est en même temps le reflet de son époque.
Ouais.
Mais bon, ce n'est pas notre sujet de la soirée, mais on pourrait longuement en parler, mais c'est un personnage monstrueux. Sois assuré qu'il est un personnage monstrueux.
On va certainement en reparler. Je me permets ce jugement gratuit avant d'avoir tous les détails de cette histoire-là, mais au Moyen Âge, hein, si un enfant survivait à plus de 6 ans, il faut croire qu'on s'en foutait pas mal. Hein,
oui, mais à l'époque aussi, dans le cas de Gilles de Rais, ce qui était un peu étonnant, c'est qu'il faut savoir que Gilles de Rais, c'est un propriétaire, hein, et il a un royaume, hein, il a des terres qui lui appartiennent. C'est un véritable royaume à l'intérieur du royaume de France.
Okay.
D'ailleurs, il va prêter de l'argent au roi de France pour pouvoir entretenir ses campagnes durant la guerre de Cent Ans. Il est même plus riche que le roi. Et évidemment, les gens, c'est un régime féodal, hein. Donc lui, il est le maître, il a des terres sur lesquelles il y a des villages, des gens qui vivent là, et ces gens-là sont ses vassaux. Donc ces gens-là lui doivent lui payer des impôts, lui payer des taxes. Donc, et il a donc littéralement un droit de vie ou de mort sur les gens qui vivent sur ses terres. Mais il faut faire attention parce qu'on a beaucoup diabolisé le Moyen-Âge. Hein, les gens disaient, ah oui, mais dans les régimes féodaux, les propriétaires, les dirigeants féodaux avaient le droit de cuissage qui n'a jamais existé, donc de pouvoir avoir de coucher avec l'épouse d'un futur marié. Là. Donc, on essayait sa femme avant. Là. Ça, c'est pas vrai. Ça a été raconté dans des romans, ça a été raconté dans des films, mais ce droit de cuissage n'a jamais existé. Mais on a aussi dit que dans les régimes féodaux, ben les propriétaires avaient le droit littéralement de vie ou de mort. Ils pouvaient assassiner les gens sur leur terre sans avoir aucune réprimande de la part des autorités laïques ou les autorités ecclésiastiques, ce qui est absolument faux. D'ailleurs, Gilles de Rais va devoir répondre à ces accusations-là. Il n'a pas le droit de mutiler les gens qui vivent sur ces terres et il n'a pas le droit de les tuer. Donc, il y a des lois qui sont précises, des lois qui ont été édictées par le roi de France et qui sont reconnues donc par un système judiciaire. Évidemment, c'est pas un système qui est très, très élaboré, mais quand même, ça lui interdit de mutiler des gens et il n'a pas le droit non plus de les assassiner. Donc, Gilles devra répondre. Et là, ce qu'il fait... Lorsqu'il commence à s'enliser dans ses délires, il s'entoure de gens autour de lui et il dit, vous allez aller dans les villages, vous allez proposer aux gens qui ont beaucoup d'enfants, et souvent on n'avait pas suffisamment de sous, on n'avait pas suffisamment de vivres pour entretenir toute une famille, hein, parce que bon, on allait aux champs, mais les récoltes, parfois, s'il suffisait d'avoir une période de sécheresse pour que la récolte soit moins bonne.
Ouais.
Donc, quand les familles étaient nombreuses, ben, ça faisait beaucoup de bouches à nourrir. Donc, Gilles envoyait des gens dans les villages et des véritables scélérats qui travaillaient avec lui. Et ces gens-là allaient dans les villages, allaient voir les familles nombreuses. Puis là, il disait, vous savez, vous avez un petit garçon là, de 6 ou 7 ans. Ben, le messire de Rais aimerait peut-être en faire l'un de ses écuyers dans l'un de ses châteaux.
Ah.
Fait que là, les parents disaient, ah, ben, c'est une très, très bonne idée parce que ça nous ferait une bouche de moins à nourrir et notre enfant aurait un avenir. Hein, c'était l'idée de l'avenir. Il va devenir le serviteur d'un grand maître du royaume. Donc, il y avait cette idée-là derrière. Donc, les parents regardaient leurs enfants partir vers les châteaux de Gilles de Rais avec une idée que c'était le mieux qu'on pouvait anticiper pour leurs enfants.
Pour un meilleur avenir avec
et voilà.
Des gros guillemets.
Mais ces enfants ne revenaient jamais.
Ah.
Et là, évidemment, on commençait à discuter dans les villages. Comment ça se fait que les enfants qui vont au château ou dans les châteaux de Gilles de Rais, parce qu'il y en avait un peu partout le long de la Loire, comment ça se fait que ces enfants-là ne reviennent pas après des années? À un moment donné, on s'attendrait à ce que les enfants reviennent voir leurs parents. Non, ils revenaient jamais. Ils disparaissaient gommés de la surface de la terre. Et là, peu à peu, les rumeurs se sont amplifiées. Et à un moment donné, on a commencé à trouver des cadavres. Je pense notamment au château de Chantossé-sur-Loire, qui était l'un des lieux, le fief favori de Gilles de Rais. Ben, on a trouvé deux cadavres d'enfants au pied du château. Donc, ça venait alimenter les rumeurs. Des gens disaient que des enfants qui allaient dans les châteaux disparaissaient. Et là, voilà qu'on trouve deux cadavres d'enfants au pied d'une des tours du château. Donc, ça venait alimenter les histoires. Et comme c'est malheureusement souvent le cas, on vit une drôle d'époque. Hein. On dirait que le temps efface les crimes. On a vu au cours des dernières années des gens qui se sont prononcés dans des espèces de procès en réhabilitation, mais tout à fait fantaisiste. On va réhabiliter la comtesse Erzsébet Báthory. On va réhabiliter Gilles de Rais. On va réhabiliter Rasputin. On va réhabiliter Adolf Hitler. C'est comme si les crimes qu'on leur reprochait étaient des inventions de l'histoire. C'est vrai que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, et souvent les vainqueurs ont tendance à diaboliser leurs ennemis, les vaincus. Donc, que les gens qui aient fait un procès à Gilles de Rais, que les gens qui aient fait un procès à la comtesse Báthory ou encore à Rasputin, que ces gens-là aient diabolisé ces gens-là, en aient mis plus qu'on en demandait, c'est bien possible. Gilles de Rais a-t-il tué 140 enfants? En a-t-il tué 500? Difficile à dire. Mais une chose est certaine, durant les minutes du procès, il y a des témoignages sur lesquels on doit s'appuyer. Des témoignages qui ont été livrés, qui sont concordants. Des témoignages qui ont été livrés sans aucun objectif. Donc, quand les parents allaient devant le tribunal en disant « Mon petit garçon est allé travailler au château de Gilles de Rais », ces gens-là n'ont rien à gagner. Ils n'ont pas de sous à gagner de ça. Ils ne font pas, ils sont pas payés par l'État. Ils sont pas payés par le pouvoir laïque. Et au contraire, le fait de témoigner contre leur suzerain, tu comprends qu'ils risquent de se placer un peu comme en faux contre le pouvoir en place. Et le pouvoir, c'est le suzerain qui est dans le cas présent, qui est Gilles de Rais. Donc, si Gilles n'est pas condamné et qu'il est libéré et relaxé, il va faire vivre l'enfer à la famille qui est allée témoigner contre lui. Tu comprends? Ces gens-là, ils n'ont pas un droit de protection. Là, tu sais, là, si Gilles n'est pas condamné et je pense que je vais être chassé de mes terres puis je vais être condamné à l'exil. Donc, ces gens-là n'ont rien à gagner. Mais durant les procès, tant le procès laïque, procès civil, que le procès ecclésiastique, ces gens-là viennent témoigner. Leurs enfants ont disparu. Et à un moment donné, des gens, les scélérats qui travaillaient avec Gilles, à partir du moment où ils se savent condamnés, hein, tu vas être condamné, on te le dit là, déjà d'avance, t'es condamné à mort. Ton discours ne changera plus rien. Alors là, je pense par exemple à un témoignage où un des proches de Gilles de Rais dit, dans l'une des tours de Chantaussée, lorsque Gilles nous a demandé, parce que Gilles, à un moment donné, se retrouve, il paie tellement cher le silence des gens qui travaillent autour de lui pour dissimuler ses crimes, qu'il dilapide sa fortune. Et là, il va faire appel au diable, il va faire appel en fait à un sorcier qui lui fait appel au diable, à un démon du nom de Baron, pour renouveler sa fortune, requérir cette fortune disparue. Et là, donc, il va s'adonner à des rituels de satanisme et évidemment, durant les rituels, on demande des sacrifices d'enfants parce que, dans le fond, le sorcier sait que Gilles est un pédophile. Donc, la façon de rester dans les bonnes grâces de Gilles, c'est en même temps de lui faire croire que le diable va lui redonner sa fortune lapidée, mais en même temps de lui permettre de s'adonner à ses vices. Ah. Alors, une situation assez simple. L'un des sorciers de Gilles de Rais, là, qui arrive en 1438, qui arrive tardivement, mais c'est le plus épouvantable du groupe, lui arrive en 1438, c'est un type qui s'appelle Francesco Prelati, et lui dit à Gilles, « Bon, j'ai parlé au diable, et le diable m'a dit qu'il était prêt à renouveler ta fortune, te redonner cette fortune disparue et dilapidée, mais il n'est pas prêt à le faire maintenant. » Il faut que tu montres à quel point tu es prêt à te sacrifier pour lui. Et te sacrifier pour lui, ça veut dire que tu dois me donner à moi, le sorcier, 15 pièces d'or. Et en plus des 15 pièces d'or que tu vas me donner à moi, le diable exige le sacrifice de 2 enfants. Donc Gilles, même si on dit qu'il est ruiné, il a quand même une importante fortune qui lui reste un petit bas de laine, tu comprends? Donc, Francesco Prelati finit de vider le bas de laine de Gilles, mais en même temps, il lui permet de s'adonner au vice en lui faisant croire que c'est pour un sacrifice pour le diable. Fait que Gilles se trouve d'une certaine façon le moyen de justifier son crime. C'est vrai que c'est cruel, c'est vrai que c'est épouvantable, mais je le fais pas pour mon propre plaisir, puisque c'est le diable qui le demande. Tu vois un peu le contexte un peu sordide de l'histoire.
Ah, c'est tellement malsain, ben oui.
Et un de des proches de Gilles de Rais va raconter durant le procès, il dit, lorsque Gilles se trouve, voit un peu sa fortune comme ça qui est dilapidée, il a de plus en plus de difficultés à payer tout le monde, à faire à payer le silence des gens qui l'entourent. Il dit qu'il décide de vendre certaines de ses propriétés. Et là, c'est là qu'un des proches de Gilles, Poitou, va raconter. Il dit, lorsque Gilles vend sa propriété de Chantaussée-sur-Loire, il dit, il nous demande de descendre dans une oubliette, une espèce de puits. Il dit, moi et Petit Robin, étant un autre des acolytes de Gilles. Alors, il dit, moi et Petit Robin, on s'est attachés avec des cordes, on est descendus dans les oubliettes. Et là, il dit, il y avait plein de cadavres et Gilles voulait qu'on enlève les corps des enfants qui étaient là parce que s'il vendait son château, il fallait pas que le nouveau propriétaire du château, et qui plus est, était le duc de la région. Il ne faudrait pas que le duc trouve les corps dans le fond du château. Fait qu'il dit, vous allez les enlever. Donc, Poitou et Petit Robin descendent, puis il dit, ben là, on voit là, il y avait plein de cadavres, des squelettes, on a tout ramassé ça. Et le juge de demander, oui, mais combien en avez-vous ramassé? Et là, Poitou répond, il dit, je ne sais pas tous compter, mais on avait 80 crânes.
Hey.
Et là, on ne parle que du château de Chantaussée-sur-Loire. Puis là, il dit, on a pris des corps, on les a mis dans des boîtes, on les a sortis des oubliettes, on les a transférés dans un autre château de Gilles, à Machecoul. Et là, ils ont été brûlés dans les fours de Machecoul. Il y avait des fours, puis bon, ils ont été brûlés, les cadavres, les restes des corps ont été brûlés dans les fours. Et bon... Donc, tu vois un peu la situation.
Okay.
Donc, lorsque Poitou raconte cette histoire-là durant le procès, il n'a plus rien à gagner. Il sait qu'il est condamné à mort. Donc, son diaboliser davantage son maître n'apportera rien ni à sa sauvegarde, ni à la protection de son maître ou au salut de son âme. Il n'y a plus rien à faire. Et les révélations sont quand même étonnantes. Donc, il y a des gens qui se sont lancés dans « on va réhabiliter Gilles, on va réhabiliter la comtesse Bathory ». Bon, l'histoire voudrait que la comtesse ait assassiné 650 jeunes femmes pour se baigner dans leur sang, là, parce qu'elle croyait garder la jouvence. Ça, c'est de la foutaise. Mais c'est vrai que c'est une femme cruelle. Et le procès qui a eu lieu, on se trouve en... C'est la frontière entre la Roumanie et l'Hongrie. Et durant le procès, on a quand même des actes d'accusation pour une cinquantaine de victimes. Non pas 600 comme la littérature un peu exagérée l'a porté, mais historiquement parlant, on est capable de fournir des éléments, des pièces qui ont été déposées au procès, qui montrent bien que la comtesse Bathory entre quelque part, au début des années 1600, elle a assassiné une cinquantaine de ses servantes. Non pas pour se baigner dans leur sang, là, ça c'est de la foutaise, mais parce que c'était une femme qui était vindicative, puis elle avait des excès de colère. Donc il suffisait qu'une servante ait mal agi, ait mal fait son travail, la comtesse entrait dans une violence épouvantable, dans une crise épouvantable, et ça cumulait avec des actes de violence, et elle a assassiné une cinquantaine de servantes. Mais là, on va réhabiliter la comtesse Bathory, parce que ces crimes-là étaient probablement pas vrais, probablement des crimes inventés par ses ennemis politiques, ou ses... Ben là, à un moment donné, il faut quand même s'en tenir ou à des documents historiques sur lesquels on a à peu près une certitude et non pas simplement une espèce de fantasme de « Ah, ça doit pas être vrai ». Tu sais combien j'ai même entendu des gens dire « Ah, les camps de concentration n'ont jamais existé » ou « On n'a jamais pu éliminer 6 millions de Juifs parce que, bon, on n'avait pas les infrastructures pour éliminer tant de Juifs. C'est une invention inventée par les Juifs. Donc, allons, on va réhabiliter Hitler et compagnie. » Ben oui, c'est sûr. On vit une drôle d'époque et je sais qu'il y a quelques années, en France, des gens ont dit est-ce que les crimes de Gilles de Rais n'auraient pas pu être inventés par les ennemis politiques de Gilles de Rais? On voulait sa fortune, on voulait ses terres, donc on l'a accusé de crimes qu'il n'avait jamais été commis, et ensuite il a été exécuté, puis merci, bonsoir, on a pu récupérer ses terres. C'est pas tout à fait vrai. Les faits historiques montrent que c'est pas comme ça que ça s'est passé, qu'après l'exécution de Gilles, c'est pas le duc de Nantes qui a récupéré toutes les terres de Gilles. Gilles avait une fille qui s'appelait Marie de Et il y avait une femme aussi qui s'appelait Catherine de Thouars. Même s'il commettait ses crimes, il avait envoyé sa femme et sa fille dans un autre château. Ce sont eux qui ont été les héritiers du royaume et non pas le duc de Nantes. Donc, on aime bien falsifier l'histoire pour lui donner le sens qu'on veut, mais il y a des faits historiques qui sont quand même indéniables. Mais bon, ça nous éloigne de notre sujet de ce soir.
Ben oui, mais j'ai quasiment envie de faire une première petite pause vu qu'on a fait cette belle parenthèse-là ensemble, mais c'est une histoire épouvantable, là, puis on parle
oui, absolument.
On parle des siècles et des siècles là, avant...
Ouais.
avant notre temps.
Ce sont des personnages qui ont marqué l'imagination, hein, parce qu'aujourd'hui, la comtesse Bathory, l'idée de cette comtesse qui se baignait dans le sang de ses victimes, puis là, il y a comme une espèce de fantasme. Même ici au Québec, il y a quelques années, on avait fait un film avec, comment qu'elle s'appelle, Néron, Catherine Néron, quelque chose comme ça, là, qui...
C'est Caroline Néron qui a fait...
Caroline qui avait joué Éternelle, là, tu sais, qui jouait la comtesse Bathory. Tu sais, on voit que c'est une espèce de fantasme. La comtesse Bathory a traversé le temps pour devenir un personnage un peu à la hauteur de Dracula, Frankenstein, un monstre de l'histoire. Et on nous dit qu'elle avait une beauté incroyable, alors qu'on a une peinture de l'époque. On a une peinture qui a été commandée par la famille Bathory. Et on la voit, la comtesse, elle n'était pas si jolie que ça. Là.
Oh, Christian, ça, c'est des goûts.
Elle avait des traits assez grossiers, mais cette idée-là, il y a une espèce de fantasme autour de ça. Les faits historiques sont assez simples. Hein. La comtesse Bathory est une femme vindicative qui avait des problèmes de comportement et elle s'en prenait vertement à ses servantes. Et c'est assez amusant parce que, quand je dis amusant, il faut savoir qu'elle... On est sur la frontière de la Hongrie, la Slovénie, tout ça. Et au moment où elle assassine des servantes qui sont slovaques, le bruit remonte jusqu'aux autorités. Des servantes slovaques sont visiblement assassinées dans les châteaux de la Bathory. Mais personne ne dit rien parce que c'est des citoyens ou des citoyennes de seconde zone, les Slovaques. Mais à partir du moment où, là, il y a plus de Slovaques qui veulent aller travailler pour la Bathory, finalement, elle va assassiner des servantes hongroises. Et là, à partir de là, le pouvoir va se mettre en place. Tant ou si longtemps que tu assassinais des Slovaques, ça allait, mais à partir du moment où tu assassines des servantes hongroises, ça marche plus. Et donc, à partir de là, on va faire un procès à Erzsébet Báthory, qui sera emmurée. On aime bien aussi l'idée, ça. Elle est emmurée dans son château. Mais moi, je suis allé là-bas, j'ai fait sortir les documents, j'ai des copies dans mes archives, des documents du procès de Báthory, et qui ont été écrits en hongrois ou en latin.
Okay.
Et le mot utilisé, elle n'a jamais été emmurée dans une pièce, on l'imagine emmurée d'une petite pièce avec un petit trou dans le bas de la porte, là, qu'on lui donne sa nourriture. C'est pas comme ça. Le mot qu'on utilise dans le procès, si on dit la comtesse est condamnée, d'ailleurs elle n'a pas assisté à son procès, elle a été condamnée par contumace. Donc on a accusé ses servantes qui ont raconté ce qui se passait dans les châteaux. Et la comtesse, comme elle avait un titre de noblesse, la comtesse Bathory, on lui a épargné le scandale d'un procès. Elle a donc été condamnée à contumace. Et le mot utilisé dans les documents légaux disent « elle a été emmuraillée dans son château ». Et quand j'ai parlé avec des historiens hongrois, le mot signifiait « oui, elle a pu être emmurée dans une pièce du château », mais le mot, de la façon dont il est utilisé, veut dire qu'elle est gardée à résidence. Donc « emmuraillée dans son château », peut dire qu'elle a été enfermée dans une pièce, puis ça, c'est l'image qu'on aime. Elle est enfermée dans une petite pièce, là, tu sais, puis il n'y a pas de fenêtre.
Sauf qu'un château, il y en a 26.
C'est ça. Mais la façon dont le mot est utilisé, ça pouvait aussi dire qu'elle est gardée simplement dans le château. Elle a libre accès à toutes les pièces du château, elle peut déambuler comme elle veut, mais elle ne peut pas quitter le site du château. Donc, il faut quand même décoder le lexique utilisé de l'époque, là, puis le procès de la Bathory, là, c'est 1610, de mémoire. Donc, le terme est très important, le terme utilisé. Donc, l'idée que le cinéma, la littérature un peu fantastique nous montre la comtesse Bathory qui se baigne dans le sang puis qui ensuite est emmurée dans une pièce de son château, ça, c'est un gros, gros fantasme. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Gilles de Rais non plus. On a beaucoup exagéré les crimes, la façon dont ça se passait, mais en même temps, il y a un fond de réalité derrière ça. On ne peut pas passer d'un le balancier peut pas aller d'un côté à l'autre. Il y a comme un juste milieu. T'sais. Non, Gilles de Rais n'a probablement pas tué 2000 enfants, mais là, de prétendre qu'il était un saint, c'est une autre paire de manches. T'sais. C'est un peu la même chose avec la Bathory. Mais ce sont des personnages qui ont marqué l'imaginaire, puis on en parle encore aujourd'hui, parce que ce sont des crimes épouvantables qui ont marqué l'histoire.
Bien, merci, Christian. On fait une courte pause de 2 minutes et au retour, on se concentre, tel que promis, sur le sujet de la soirée.
Parfait, excellent.
Radio X Files. Avec Christian Page et Camille.
Radio X. Misty Borden took an axe
Mais dans quel univers tu nous embarques ce soir?
Écoute, c'est épouvantable. Les enfants chantaient, les enfants chantaient ça. Hein? Lizzie Borden a pris une hache, elle a donné à sa mère 40 coups de hache. Quand elle a vu ce qu'elle avait fait, elle a pris la hache et a donné 41 coups à son père. Bon, les faits montrent que le couple Borden ont été effectivement assassinés à coups de hache. Ils n'ont pas reçu 40 coups chacun, là. Mais on voit, c'est un peu un genre de comptine que les enfants chantaient dans les écoles. À l'époque, on est au début du 20e siècle, et ça nous montre à quel point cette histoire de Lizzie Borden a marqué l'imaginaire. Puis comme je l'ai mentionné en début d'émission, Lizzie Borden, c'est probablement le crime historique qui a marqué la société américaine, comme Jack l'Éventreur a marqué la société britannique. Donc, on se remet un peu dans le contexte, parce que c'est une grande énigme historique, même si tous les faits semblent accuser Lizzie Borden. Donc, l'affaire commence le 4 août 1892. On se trouve à Fall River, c'est au Massachusetts, et ce matin-là, parce que bon, on va essayer de regarder là, les éléments chronologiques de ces événements, et puisqu'il faut commencer à un moment donné, ben commençons à 8 heures le matin, la famille Borden se réunit pour le petit déjeuner. Au menu, on a du ragoût de mouton. Il fait très chaud. C'est un ragoût de mouton qui a été fait 2-3 jours plus tôt. Fait qu'il y a comme des petits îlots verdâtres qui flottent sur la concoction.
Très en l'air, ça ouais, c'est mange ça. Donc, bien. Mais,
puis le père Borden, c'est un individu très, très, très gripsou. Hein. À l'époque, il y avait des réfrigérateurs, mais les réfrigérateurs de l'époque, c'était des glacières. Hein. Donc, oui. On mettait de la glace et là, on mettait des aliments pour les protéger. Puis là, le marchand de glace... bon, je raconte ça, puis là, les gens me disent, mais voyons, donc, qu'est-ce qu'il raconte? Là? Oui, il y avait un marchand de glace.
Ça passait avant ou après le laitier?
Oui, c'est ça. Donc, il passait avec ses blocs de glace et on mettait ça dans des espèces de cabinets. Hein. Il y avait comme des tiroirs dans le bas du cabinet où on mettait la glace. Et là, ça entretenait l'intérieur du cabinet avec une température froide dans laquelle on pouvait conserver des aliments. Mais le père Borden était tellement gripsou qu'il refusait de payer le marchand de glace. Tant et si bien que tu comprends que notre ragoût de mouton a été fait 3 jours plus tôt puis a traîné sur le comptoir. Là, tu t'imagines en pleine chaleur du mois d'août à quoi ça peut ressembler. Donc les gens, il est 8 heures le matin, les gens se réunissent autour de la table. Bon, les gens autour de la table, il y a Andrew Borden, le père, hein, il a 69 ans. Il y a sa deuxième épouse, Abby Borden, qui a 65 ans. Il y a sa fille, la fille de Monsieur Borden, qui est la belle-fille de Abby Borden, parce que sa mère est décédée quelques années plus tôt, qui s'appelle Lisbeth, qu'on surnomme Lizzie. Elle a 32 ans. Elle est d'ailleurs la fille cadette. Hein. Monsieur Borden a deux filles, ça c'est sa fille cadette. Il y a son beau-frère, un certain John Morse, qui est là de passage, parce qu'il a des affaires à traiter en ville. Et également présent autour de la table, une certaine Bridget Sullivan, qui est une jeune domestique qui a 26 ans. Donc tous ces gens-là sont réunis à la cuisine. Il y a ce fameux repas. Monsieur Borden, faut quand même le dire, c'est un banquier. C'est un homme très très riche, l'un des personnages les plus en vue de la ville. Mais il est on dirait dans notre langage, c'est un séraphin. Là. C'est un individu, un vrai, vrai gripsou. Donc, après le repas, John Morse, le beau-frère, doit quitter, comme je l'ai mentionné, parce qu'il y a des affaires en ville. Bridget, la domestique, doit s'occuper sa tâche matinale et de nettoyer les vitres à l'extérieur. C'est ce que Madame Borden lui a demandé. Mais assez rapidement, elle est prise de nausée, on le comprend. Le ragoût de mouton n'était pas particulièrement frais, donc elle demande à Madame Borden si elle peut être dispensée de cette tâche. Elle souhaiterait s'allonger. Madame Borden, qui est une femme excessive, à carrière, détesté, dit non, tu dois t'occuper de ces tâches, tu vas nettoyer les vitres, après seulement, tu pourras aller te reposer. Donc, la domestique en question s'occupe de ses tâches, et puis finalement, elle remonte dans sa chambre pour aller s'étendre. Il est à peu près 10 heures. Et c'est à ce même moment-là, là, donc en milieu de matinée, que Monsieur Borden, le banquier, décide de sortir, d'aller prendre une marche. Et bon, ce matin-là, il a un agenda peu chargé. Donc, il sort pour prendre sa marche. À 11h15, Bridget, la domestique, vient à peine de s'assoupir lorsqu'elle entend les cris de Lizzie qui dit « Vite, Bridget, viens ici, papa a été assassiné. » Donc, Bridget Et je sais, pour avoir dormi dans la chambre de Bridget, j'ai loué la maison des Borden et j'ai dormi dans à peu près toutes les pièces. Et donc, on est vraiment sous les toits. Donc, et l'endroit où M. Borden se fait assassiner, c'est un peu comme au premier étage. Donc, je vois très bien, là, je peux visualiser le petit escalier de servante qui descend au premier étage. Et là, Lizzie se trouve à cet endroit-là. Elle est un peu comme en état quasiment hypnotique, et sur une espèce de divan, il y a M. Borden affalé, la tête complètement embouillie. Visiblement, il a été frappé à la tête par un objet contondant alors qu'il était en train de lire son journal. Donc, Lizzie est immobile, les yeux hagards, et là, elle dit à la domestique, Bridget Sullivan, elle dit, vite, va chercher de l'aide, quelque chose s'est passé. Donc, assez rapidement, la maison en question, là, qui est située au 92 Second Street, va se mettre à grouiller de policiers, et là, ben, on voit le corps de monsieur Borden, qui est visiblement été, comme je l'ai mentionné, frappé par un objet contondant. Éventuellement, on va déterminer que ce sont des coups de hache. Alors là, on demande à Lizzie, oui, mais où est Madame Borden? Et là, Lizzie dit, elle a reçu un télégramme en début de matinée et une de ses amies était malade et elle est sortie, après avoir reçu le télégramme en question, elle est sortie presque aussitôt. Bon, parfait. Fait qu'il faudrait savoir qui est l'ami et où se trouve Madame Borden pour pouvoir l'informer de cet épouvantable crime. Et alors que les policiers, c'est assez invraisemblable, là. Tu t'imagines, on a un premier étage qui grouille de policiers et non seulement les policiers, il y a Lizzie qui est là, la servante, il y a des voisins qui ont accouru au cri, bien sûr, de Lizzie Borden. Et là, dans une pièce juste à côté, alors que les policiers sont là à regarder le corps de Monsieur Borden, juste à côté, Bridget Sullivan, puis une voisine, Madame Churchill, entre dans la pièce d'à côté, et là, juste au côté du lit, trouve le corps de Madame Borden. Écoute, c'est assez inhabituel, elle est comme agenouillée, et visiblement, elle était en train de laver le plancher lorsque quelqu'un est arrivé derrière elle, avec un objet contondant, et il l'a frappé à la tête aussi.
Okay.
Donc, elle a la tête, elle aussi, amochée comme son mari. On va déterminer... Bon, fait que là, le médecin légiste va déterminer que Mme Borden a visiblement été assassinée vers 9h30, alors que M. Borden a été assassiné vers 11h. Et là, ça commence à poser un problème, parce que si on s'imagine un tueur qui est entré dans la maison pour assassiner le couple Borden, ça voudrait dire que le tueur est entré quelque part. On sait qu'à 8h, ils étaient réunis dans la cuisine. Mme Borden a été assassinée vers 9h30, alors qu'elle était dans la chambre des maîtres à laver le plancher, ce qui est quand même surprenant. Elle aurait pu le demander à Bridget Sullivan, qui était la servante, mais visiblement, Mme Borden avait décidé de nettoyer une tache sur le plancher. C'est là qu'elle a été surprise. Donc, l'assassin se serait dissimulé dans la maison entre 8h et 9h30, aurait assassiné Mme Borden, se serait dissimulé à nouveau, aurait attendu le retour de M. Borden pour l'assassiner à son tour aussi, avant de prendre la fuite.
Tout ça de façon très silencieuse aussi, là. Mais ça, ça m'est jamais arrivé, Christian, de me faire assassiner, mais il me semble que ça doit pas être si silencieux.
Non, c'est ça. Donc, on se dit, là, il y a quelque chose qui semble pas fonctionner. Bridget Sullivan, son alibi, elle dit, ben là, voilà, moi, quand je suis rentré, je suis sorti à l'extérieur pour laver les fenêtres un peu après 8h, après le déjeuner, je n'ai pas revu Mme Borden. Quand je suis rentré dans la maison, je suis allé m'étendre. J'ai entendu M. Borden sortir et ensuite, j'ai été tiré de mon sommeil par les cris de Lizzie Borden. C'est donc, et j'ai été témoin de ça. Quand on pose la question à Lizzie, là, on découvre que quand même des failles dans ce qu'elle raconte. On ne trouve pas dans la chambre de Mme Borden le fameux télégramme qui dit qu'une amie est tombée malade. Et c'est pourtant ce qu'elle dit aux policiers. Elle dit qu'elle a reçu un télégramme et elle est partie. Donc, on ne trouve pas le télégramme en question. On ne retrouve pas à Fall River l'amie de Mme Borden qui serait tombée malade. Et Lizzie est la seule à avoir vu apparemment Mme Borden quitter les lieux. Donc, tout repose sur le témoignage de Lizzie Borden. Et quand on lui demande « Et toi, Lizzie, qu'est-ce que tu faisais? » Alors, elle dit, ben, moi, j'étais dans l'atelier derrière. Il y a comme une petite maison. Aujourd'hui, si les gens vont visiter ce lieu-là, parce que c'est devenu un bed and breakfast, crois-le ou non. Et derrière le bed and breakfast, il y a une espèce de petit garage dans lequel qui a été transformé en boutique touristique. Donc, on peut acheter toutes sortes de trucs, dont une hache.
Ben non, ça, c'est de mauvais goût.
Oh mon Dieu! Donc, on se dit, bon, voilà. Et elle dit, c'était un garage à ce moment-là, un atelier. Elle dit, j'étais là, j'étais en train de préparer des hameçons, des trucs, parce que je figurais de partir pour un voyage de pêche. C'est quand même assez curieux, un voyage de pêche pour une fille qui n'a même pas une canne à pêche. T'sais? Parce qu'on va déterminer ça aussi, elle n'a pas de canne à pêche, mais elle dit, j'étais en train de préparer des appâts pour une canne à pêche. Après ça, elle va changer un peu son histoire. Elle va dire, j'ai coupé la tête de poulet pour préparer des poulets pour le repas du soir. Donc, elle varie un peu le récit ou le fil de son récit. On va déterminer également, écoute, quand tu parles de mauvais goût, là, on va découvrir que M. Borden a été assassiné de 9 coups de hache à la tête, sa femme, 17 coups de hache à la tête. Et quand tu visites le bed and breakfast, les crânes de M. et Mme Borden, les crânes de squelette, ont été moulés à partir des ossements et tu peux les voir dans une espèce de curieux où tu vois le crâne de M. Borden et le crâne de Mme Borden défoncé à coups de hache.
OK, on a repris...
On a refait à partir des photographies et des moules qui ont été faits par le légiste, on a reproduit les crânes. Bref, on détermine qu'ils ont été assassinés de cette manière-là. Et là, bien sûr, on se dit, très rapidement, tous les indices pointent vers Lizzie Borden. Qui plus est, alors que les policiers sont en train d'enquêter sur l'affaire de Lizzie, ils apprennent de la bouche d'une voisine qu'ils ont surpris Lizzie Borden en train de brûler une robe dans la cour arrière de la maison. Donc, on se dit pourquoi brûler une robe alors qu'on enquête? Est-ce que la robe contiendrait des indices qui démontreraient que Lizzie a été impliquée dans le crime? Parce que ça, c'est un des éléments qui va revenir. C'est que Bridget Sullivan, la servante, va dire, quand j'ai vu Lizzie à 11 heures qui m'appelait en disant, Bridget, papa a été assassiné, quand je suis descendue puis j'ai vu Lizzie, elle portait la même robe qu'elle portait au déjeuner. Donc, si c'est elle qui avait assassiné son père et Mme Borden, sa robe aurait dû être recouverte de sang. Bien sûr, tu dis, elle aurait pu éventuellement l'enlever, reprendre sa robe, mais elle pouvait pas savoir à 9h30, quand elle a assassiné Mme Borden, elle pouvait pas savoir que Bridget remonterait dans sa chambre pour se coucher. Donc, si elle avait changé de robe, elle risquait d'être vue par Bridget, qui aurait pu la dénoncer en disant, ben, à un moment donné, entre 9h et 10h, soudainement, Lizzie avait une autre robe que celle qu'elle portait au déjeuner. Bon. Mais c'est pas arrivé, ça. Donc, on se dit, sa robe aurait dû être recouverte de sang. C'est un petit détail, mais un détail qui va avoir une grosse incidence durant le procès. Parce que tout porte vers Lizzie Borden et éventuellement, on va même découvrir que quelques jours avant que ses parents soient assassinés. Elle détestait ses parents. Hein. Faut pas se le cacher. Elle ne s'en cachait. Elle le disait à tout le monde. Elle insistait pour que éventuellement son père vende leur maison de la deuxième rue pour éventuellement acheter une propriété plus luxueuse, plus confortable sur les hauteurs de Fall River. Mais comme M. Borden était un véritable gripsou, il a préféré rester dans cette petite maison qui avait pas de commodité, pas de toilette, pas d'électricité, pas d'eau courante. Donc c'était un peu infernal. Donc, elle détestait son père, qui était quand même riche, puisque c'était un banquier, donc c'était l'une des grandes fortunes de Fall River, et elle détestait sa belle-mère. Donc, tous les éléments font de Lizzie Borden un parfait suspect. Et éventuellement, il va y avoir un procès, elle est accusée du meurtre de ses parents, même si on n'a pas une preuve directe. On a aussi un témoignage d'un pharmacien chez qui Lizzie Borden, quelques jours plus tôt, a voulu acheter de la mort au rat. Un poison, et le pharmacien lui a dit, ben là, pour pouvoir acheter de la mort au rat, il faut avoir une ordonnance particulière de la police ou quoi que ce soit, et finalement, il a pas vendu de mort au rat, donc ce poison, il n'en a pas vendu à Lizzie Borden. Donc, cette histoire-là va rebondir devant le tribunal, c'est quand même curieux, cette femme qui, quelques jours avant la mort de ses parents, cherche à acheter un poison virulent,
ouais.
Là, voilà que ses parents sont assassinés, et crois-le ou non, une histoire tout à fait aberrante. À un moment donné, durant le procès, il y a l'histoire de la robe que Lizzie Borden a brûlée. Là, on se dit, est-ce que c'était la robe tachée du sang de ses parents? Et éventuellement, lorsqu'elle parle, lorsque son avocat demande à Lizzie Borden qu'est-ce que c'est que cette histoire de robe qu'elle a brûlée, elle raconte à son avocat, elle dit, c'est une robe, oui, je l'ai brûlée parce qu'il y avait effectivement des taches de sang sur la robe, mais c'était du sang menstruel. Et crois-le ou non, l'avocat de Lizzie Borden parle de ça à huis clos avec le procureur et d'un commun accord qu'ils se disent « on parlera pas de ça durant le procès » parce que y parler d'hygiène féminine durant le procès, ça serait mal vu.
Oh mon Dieu, alors que...
Oui.
Je t'annonce que les chances auraient été très, très, très minces que ça soit ça réellement.
Je n'en doute point. Mais on s'est dit, on ne commencera pas à parler d'hygiène féminine durant le procès. Fait que finalement, le procès de Lizzie Borden a lieu et elle est acquittée du crime. Hein, parce qu'on n'a pas de preuves directes. Hein, c'est comment est-ce qu'elle l'a fait? Est-ce qu'elle a changé de robe? Où est l'arme du crime? On va bien retrouver dans le sous-sol de la maison une hache brisée, mais rien ne prouve. Le léger s'est incapable de déterminer si c'est la tête de hache, parce que le manche est brisé. Là, et on a comme un petit bout de bois dans le morceau de métal qui forme la tête de la hache. Et le médecin léger s'est incapable de déterminer. Il dit c'est un instrument sans doute semblable à celui-là, mais il est incapable de déterminer si c'est la hache qui a été utilisée pour frapper à la fois monsieur et madame Borden. Bref, le procès se déroule, Lizzie Borden est acquittée. Et après avoir été acquittée, elle va hériter de la fortune. Elle a une sœur, Emma, et donc ce sont les deux filles de monsieur Borden, elles vont hériter de la fortune. Et immédiatement après le procès, tu comprends que Lizzie Borden va se débarrasser de la maison du 92 Second Street et elle va s'acheter une très luxueuse résidence qu'elle va rebaptiser Maplecroft, qui se trouve sur les hauteurs de Fall River. D'ailleurs, si les gens qui nous écoutent ont envie d'aller se faire à un moment donné passer une nuit dans le bed and breakfast où les crimes sordides ont eu lieu, vous pouvez aussi voir sa résidence de Maplecroft, puis elle est facilement reconnaissable parce que quand on voit la résidence sur la première contre-marche en pierre qui permet d'accéder à la résidence, une énorme résidence avec des tours qui datent de la fin du 19e, du 19e, début du 20e siècle. Et on voit sur la contre-marche, la première contre-marche, est écrit et gravé en pierre Maplecroft. Donc ça, c'était le nom qu'elle avait donné à la résidence. Elle va s'y installer avec sa sœur Emma. Il faut quand même mentionner qu'au moment où tout ça se passe, hein, je l'ai mentionné, Lizzie Borden a 32 ans, mais c'est une femme qu'on ne lui connaît pas, elle n'a pas de compagnon, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. C'est une femme qui a un physique assez grossier aussi. Elle n'est pas très jolie, elle est un peu en surpoids. Et on dit qu'elle a des comportements anormaux, sous-entendre qu'elle est probablement lesbienne. Et effectivement...
Ah, OK.
Dans cette résidence, elle a des relations contre nature. C'est le mot qu'on utilise, contre nature. Et lorsqu'elle s'installe à Maplecroft, les gens, évidemment, comme elle a été accusée du meurtre de ses parents, même si elle n'a pas été reconnue coupable, il y a toutes sortes de théories qui vont commencer à circuler. Est-ce que c'est Bridget, la servante, qui aurait assassiné le couple Borden? Est-ce que c'est Monsieur Morse qui était là, qui est le beau-frère, qui aurait assassiné le couple Borden? Est-ce que ce sont tous ces gens-là ensemble qui ont concocté pour commettre un crime collectif? Qu'avait-il à gagner? On a même évoqué peut-être un fils illégitime de Monsieur Borden qui aurait pénétrer dans la maison, se serait caché pour assassiner le couple. Bref, les hypothèses sont très nombreuses, mais quand même, l'hypothèse première, c'est suivez l'argent à qui le crime paie, et le crime a payé en premier Lizzie Borden, qui détestait habiter sur Second Street et qui, immédiatement après avoir touché l'héritage, achète cette importante résidence à Maplecroft. Le restant de ses jours, Lizzie Borden va... va être un peu ostracisée dans la communauté. Les gens la pointent du doigt, on ne lui parle pas. Même quand elle va dans des commerces, certains commerces refusent de lui vendre de la marchandise. Elle va rester seule. Bon, d'abord, elle s'installe avec sa sœur Emma à résidence dans Maplecroft. Mais en 1913, pour une raison mystérieuse, Emma quitte Maplecroft. Elle va aller s'installer à quelques rues de là et ne reparlera plus jamais à Lizzie. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'à ce moment-là, Emma, qui n'était pas à la maison lorsque le crime a eu lieu, elle était mariée, elle vivait ailleurs au Connecticut, est-ce qu'elle a découvert en 1913 que les soupçons étaient fondés, qu'elle a découvert quelque chose qui démontrait clairement que Lizzie était l'assassin de ses parents, alors qu'elle avait toujours eu des doutes jusqu'à ce moment-là, et c'est la raison pour laquelle elle aurait quitté Maplecroft. On l'ignore, mais on sait également qu'à ce moment-là, Lizzie loue, entre guillemets, entendons-nous, elle loue une chambre avec une comédienne de théâtre, une certaine Nance O'Neill, qui elle aussi a des comportements contre nature. Mm. Donc, est-ce que Emma, tu sais, on va quand même se remettre dans l'idée d'une Amérique très puritaine, là. Est-ce que Emma a découvert que Lizzie était vraiment l'assassin de ses parents, alors qu'elle en avait toujours douté, ou est-ce qu'elle a surpris Elizabeth, Lizzie, avec sa compagne O'Neill dans une situation scabreuse, et que elle, Emma, a décidé de déménager pour ne pas rester dans cette maison qui était littéralement l'antre du diable,
le diable, la perversion, le satanisme.
Donc, voilà, donc on quitte ça pour pas rester là. Donc on le saura jamais. Emma n'expliquera jamais les raisons pourquoi elle a quitté Maplecroft et elle ne donnera jamais la raison pour laquelle elle n'a jamais reparlé à Lizzie Borden. Faut quand même se dire que la somme d'argent était quand même colossale. Comme je l'ai mentionné, Monsieur Borden était l'un des hommes les plus riches de Fall River. Bref, Lizzie Borden éventuellement va se séparer de cette amie. Nance O'Neill va la quitter et elle va terminer ses jours seule. Elle meurt en 1927. À son décès, ses avoirs sont estimés à peu près à 200 000 $, ce qui est représenté en argent d'aujourd'hui là, plus de 20 millions de dollars.
Wow, OK.
Donc, c'est énormément d'argent. Et on découvre chez elle qu'elle a plus de 30 000 $ en argent comptant chez elle, dissimulé dans sa résidence. 30 000 $, ça représente plus de 150-200 000 $ en liquide qu'elle gardait chez elle. Et quand elle décède, elle est tellement isolée, tellement ostracisée, elle n'a pas d'enfants, elle n'a pas d'amis, elle donne toute sa fortune à la prévention contre la cruauté des animaux. Donc toute sa fortune s'en va à cette association pour la protection des animaux. Depuis, l'affaire Lizzie Borden a alimenté énormément d'ouvrages. J'ai évoqué un peu les nombreuses hypothèses qui ont été proposées. On en est à 5 ou 6 films qui ont été faits sur l'histoire de Lizzie Borden.
Je viens de voir que le plus récent a été fait avec Kristen Stewart en 2018. Fait que ça continue de rester dans la culture.
Et chacun de ces films propose des fois des hypothèses ou des angles différents, soit pour bien présenter Lizzie Borden comme étant l'assassin ou comme la bouc émissaire ou peut-être une autre vision qui permettrait d'identifier un autre assassin parce que le doute va subsister. L'un des tout premiers films qui a été fait sur l'affaire de Lizzie Borden, et c'est une anecdote assez amusante, remonte à 1975. Le film qui avait été traduit en français s'appelait La légende de Lizzie Borden. Et la comédienne qui jouait Lizzie Borden dans le film était l'actrice Elizabeth Montgomery, que les gens connaissent peut-être pour son rôle de la sorcière bien-aimée, une série très populaire dans les années 60 à la télévision américaine. Et crois-le ou non, Elizabeth Montgomery était une parente de Lizzie Borden, une cousine éloignée là quand même, mais elle était quand même une parente de Lizzie Borden et c'est elle qui joue Lizzie Borden dans le film. Et la solution pourquoi Lizzie Borden n'avait pas de sang sur sa robe, ben dans le film de 1975, c'est parce qu'elle assassine ses parents nus. Elle se déshabille, assassine Madame Borden, ensuite elle se glisse dans un tonneau rempli d'eau, remet sa robe, ensuite assassine son père. et bon, elle refait le même manège, mais en gardant toujours ses mêmes vêtements. Et comme le sang a giclé sur elle, ben elle prend une douche. Mais dans ce cas-là, c'est une espèce de tonneau en bois dans lequel elle se glisse, qui était rempli d'eau pour se laver. Et c'est ce qui explique pourquoi on n'a pas retrouvé de sang sur elle. Donc, c'est l'hypothèse qui est proposée dans le film de 1975. D'autres films vont être refaits. Il y a une série télé qui a été faite, je crois, en 2018 avec Christina Ricci qui joue le rôle de Lizzie Borden. Il y a ce film de 2018 où, encore une fois, l'affaire Lizzie Borden. Bref, cette histoire-là continue d'alimenter toutes sortes de spéculations aux États-Unis, même si, dans l'ensemble, je te dirais que la plupart des gens qui se sont penchés sur les faits historiques sont d'avis que Lizzie Borden est la responsable. C'est elle qui a tué ses parents et elle a commis un crime presque parfait, puisqu'on n'a pas trouvé d'évidence directe qui permettait de l'associer au crime. Comme je l'ai mentionné, depuis, la résidence a changé à plusieurs reprises de main. Elle est, depuis quelques années, exploitée comme un bed and breakfast. Ce qui est assez extraordinaire dans le bed and breakfast en question, c'est que les propriétaires ont réussi à reconstituer la maison à partir des photos prises à l'époque. Ils ont reproduit exactement la maison telle qu'elle était au moment des crimes en 1892. Même le mobilier est identique. Ils ont retrouvé des meubles identiques à ceux que l'on voit sur les photos. Et moi, j'ai fait plusieurs reportages sur l'affaire Lizzie Borden. J'ai même loué cette maison-là pendant quelques jours.
Est-ce que c'est sur Airbnb?
Oui, absolument. Okay. Et quand je parlais avec les propriétaires, ils me disaient que quand ils ont fait là, pendant des années littéralement le tour de à peu près tous les brocanteurs, tous les vendeurs d'antiquités aux États-Unis pour s'assurer que le mobilier soit identique à celui qu'on voyait sur les photos d'époque. Et c'est vrai que quand on entre dans la maison, on est frappé là. Il suffit d'avoir vu les photographies de l'époque, parce que ces photographies là les gens qui nous écoutent peuvent les voir.
Hein, on peut même voir les photos des deux parents.
Les photos du crime,
décédés,
là, vous voyez les parents assassinés, Madame Borden agenouillée aux côtés de son lit, Monsieur Borden étendu dans son fauteuil, là, dans une espèce de divan de causeuse dans laquelle il a le crâne fracassé. Donc, ces meubles-là sont à peu près identiques aujourd'hui. Donc, on a des espèces de flashbacks de ces événements-là en voyant ces meubles. Et bien sûr, une histoire comme celle-là ne pouvait pas échapper à des histoires de fantômes. Donc, bien sûr, on raconte que le bed and breakfast serait hanté par les fantômes du couple Borden assassiné en ces lieux. Et je vais te faire une petite confidence. Là. En 2011, il y a une série américaine qui s'appelle Ghost Adventure, qui a été tournée dans le fameux bed and breakfast en question, une série qui est animée par Zach Bagans. Et pour avoir parlé avec les propriétaires, eux me racontaient que ce que l'on voit dans la série était complètement truqué.
Ah, OK.
C'est donc, il disait à un moment donné, là, tu sais, le Zach Bagans est comme au sous-sol, puis il voit comme une espèce de forme dans la pierre, puis il dit, ah, regarde, je vois une image. Tout ça, là, c'était d'un... Il avait arrangé les lumières pour éclairer seulement une partie de la brique qui donnait comme une impression de visage ou des trucs comme ça. Tout ça était complètement de la foutaise. Les propriétaires des lieux qui aiment l'histoire de Lizzie Borden et qui entretiennent les visiteurs avec cette histoire-là en proposant chacune des hypothèses qui ont été rapportées dans la littérature au cours des décennies, me disaient qu'eux avaient jamais vu ou entendu quoi que ce soit de mystérieux qui laisserait supposer que les lieux sont hantés. Mais comme c'est un peu, ça va avec le... C'est un peu une procédure qu'un lieu qui a été marqué par un crime aussi épouvantable que ceux de Lizzie Borden, mais c'est sûr qu'il y aura des histoires de fantômes qui vont circuler. C'est vrai pour cette résidence-là, mais c'est vrai pour plein d'autres résidences aux États-Unis qui ont été marquées par des crimes épouvantables et qui, aujourd'hui, sont réputées pour être hantées, même si, comme je l'ai mentionné, les propriétaires, eux, n'ont jamais rien vu qui laisserait supposer que la maison de Lizzie Borden pourrait être hantée.
C'est parce que ça laisse quand même un petit froid dans le dos d'être sur les lieux et d'imaginer, d'avoir les photos de l'époque. C'est normal que même si c'est probablement pas le cas, t'as l'impression de te faire observer.
Ouais, puis la chambre la plus demandée par les visiteurs, ben c'est la chambre où Madame Borden a été assassinée. Parce que Monsieur Borden, bon, quand on arrive au premier palier, il y a cette espèce de petit salon à air ouvert. Et c'est là que Monsieur Borden a été assassiné. La chambre juste adjacente, c'est la chambre où Madame Borden a été assassinée. Et les gens qui dorment au bed and breakfast, ben évidemment, c'est la chambre qui est la plus en demande, parce que c'est une chambre où un des crimes a été commis. Donc, je sais pas, les gens espèrent y capter des effluves sordides ou morbides, mais néanmoins, c'est la chambre la plus demandée. Moi, pour avoir loué complètement l'endroit là, pendant plusieurs jours, je changeais de chambre soir après soir. Donc, j'ai dormi dans la chambre de Lizzie, de Madame Borden, de Monsieur Borden, de Bridget, qui se trouve sous les combles. Et non, je n'ai pas vécu de phénomène mystérieux, étrange ou paranormaux entre les murs du 92 Second Street.
Et ceux qui nous s'intonisent pour la première fois, Christian, et qui se demandent pourquoi les gens veulent tant dormir dans une scène de crime, ben il y a rien à comprendre. C'est de la fascination à l'état.
Ouais, c'est la fascination parce qu'on côtoie l'histoire. Je pense que c'est ça, c'est l'idée qu'on est dans l'histoire. T'sais, quelque part, il y a l'histoire de Lizzie Borden et il y a moi dans l'histoire de Lizzie Borden. T'sais, c'est un peu ce sentiment-là qu'on a.
C'est bien dit, Christian. C'est déjà tout pour nous. Je te remercie beaucoup. Une histoire hyper intéressante. Et demain, on se gante encore plus. Jeudi, la dernière de la semaine, avec le spécial Crime occulte.
Crime occulte, satanisme. Donc, encore une fois, beaucoup de matériel en perspective pour demain.
Merci. Bonne soirée.
Toi aussi. Bye-bye.
Bye.